Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Voir les enseignements d'un sorcier Yaki et la version française de A Separate Reality, second livre du cycle de Carlos Castaneda consacré à son apprentissage auprès de Don Juan Matthus, publié initialement en 1971 après les enseignements de Don Juan, le texte se présente comme le compte-rendu de rencontres menées au Mexique et dans le sud-ouest américain. Castaneda y décrit les efforts d'un universitaire formé à la rationalité pour comprendre une connaissance que son guide associe au voir, soit une perception qui dépasse les catégories ordinaires de la vie quotidienne. Le livre combine récits initiatiques, dialogues philosophiques, descriptions de pratiques rituelles et tentatives de mise en ordre conceptuel. Les plantes psychotropes, notamment le peyote, y apparaissent comme des instruments de déplacement perceptif sans résumer la méthode proposée. Sa réception exige toutefois une précaution essentielle longtemps présentée dans un cadre anthropologique. Le récit est fortement contesté par des chercheurs quant à son authenticité ethnographique. Il se lit donc plus solidement comme une œuvre littéraire et spirituelle controversée que comme une source fiable sur les Yaki. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le voir comme rupture avec la perception quotidienne. Le concept directeur du livre est le voir. Il ne désigne pas une observation plus attentive ni une croyance dans un monde caché, mais une modification radicale de la manière dont un individu organise ce qui lui arrive. Pour Don Juan, la perception ordinaire dépend de descriptions apprises langage, habitudes, hiérarchie sociale et certitudes sur ce qui est possible. Castaneda incarne la résistance d'un esprit qui veut identifier, classer et prouver avant de reconnaître une expérience. Les échanges mettent ainsi en scène un conflit méthodique entre explication rationnelle et apprentissage par exposition directe à ce qui déroute les cadrages habituels. Le livre ne fournit pas une théorie philosophique systématique de la connaissance. Sa force réside plutôt dans la répétition de situations où le narrateur doit constater les limites de ses repères. Le voir devient alors une image de désapprentissage, suspendre les interprétations automatiques afin de ne pas confondre la représentation du monde avec le monde lui-même. Cette idée explique la place importante accordée aux sensations, aux rêves, aux silences et aux expériences difficiles à traduire. Elle donne aussi au texte sa tension durable, puisque Castaneda cherche constamment à ramener en concept stable une expérience que Don Juan veut maintenir ouverte. Deuxièmement, le dialogue entre un apprenti rationaliste et un maître insaisissable. La structure du livre repose largement sur les dialogues entre Castaneda et Don Juan. Le premier pose des questions précises, réclame des définitions et cherche une progression comparable à celle d'une enquête universitaire. Le second répond souvent par des détours, des mises à l'épreuve ou des formules qui déplacent la question plutôt que de la résoudre. Cette asymétrie ne relève pas seulement d'un effet de mystère. Elle sert à montrer que, dans le cadre du livre, une connaissance ne peut être reçue comme une information abstraite. Elle exige une transformation du comportement et de l'attention du lecteur autant que de l'apprenti. Don Juan apparaît ainsi moins comme un détenteur de doctrine que comme un pédagogue de la déstabilisation. Il confronte Castaneda à son besoin de contrôler le sens de chaque événement et à sa difficulté à accepter ce qui échappe au langage. Certaines scènes ont une dimension humoristique, car l'obstination analytique de Castaneda contraste avec la patience parfois ironique de son guide. Cette dynamique rend le texte plus accessible qu'un traité ésotérique. Les objections sceptiques sont présentes dans la voix du narrateur. En même temps, elle limite la portée documentaire de l'ouvrage, car toute la tradition décrite passe par le regard d'un narrateur dont les incompréhensions deviennent le moteur du récit. Troisièmement, les états de réalité non ordinaires et la place limitée des plantes. Les états de réalité non ordinaires constituent le terrain expérimental du livre. Castaneda rapporte des épisodes de perception altérée, de vision et de rencontres avec des forces ou entités interprétées selon le vocabulaire de Don Juan. Le peyote, la datura et une préparation fumée sont associés à certaines de ces expériences. Pourtant, réduire ouvrage à un récit de drogue psychédélique manquerait son enjeu interne. Don Juan présente ces substances comme des aides éventuelles pour ébranler les défenses perceptives de l'apprenti, non comme une voie autonome vers la connaissance. Le texte insiste aussi sur la préparation, la peur, la discipline sensorielle et le contexte relationnel. Cette distinction est importante sur le plan critique. Les descriptions ne constituent ni un guide pratique ni une information médicale fiable, et elles doivent être lues avec prudence en raison des risques connus liés aux substances psychoactives. Sur le plan littéraire, elles permettent surtout de rendre sensible une question centrale, que devient la certitude lorsque les sensations les plus immédiates cessent de confirmer une vision ordinaire du réel. Castaneda tente de rapporter ses expériences sans pouvoir totalement les stabiliser par les mots. Cette difficulté de restitution nourrit à la fois la fascination du livre et les réserves de lecteurs qui y voient des séquences opaques, répétitives ou insuffisamment analysées. Quatrièmement, le chemin qui a du cœur comme critère de conduite, parmi les idées les plus durables associées au cycle de Castaneda, figure le chemin qui a du cœur. D'en voir, cette orientation donne une portée éthique aux expériences inhabituelles décrites par le narrateur. Le but ne consiste pas simplement à accumuler des pouvoirs, des visions ou des connaissances secrètes. Il s'agit de discerner une manière de vivre qui engage entièrement la personne au lieu de la diminuer. Le critère est volontairement éloigné de la réussite sociale, de l'ambition ou de la conformité à une règle extérieure. Un chemin valable se reconnaît à la qualité de présence et de force qu'il rend possible pour celui qui le suit. Cette proposition peut être lue sans adhérer à la cosmologie du livre. Elle invite à examiner les engagements qui épuisent, rigidifient ou éloignent une personne de ses priorités réelles. Toutefois, le texte ne propose pas une méthode simple de décision applicable à toute situation. Le chemin qui a du cœur est lié à une discipline exigeante, à attention et à une responsabilité personnelle plutôt qu'à une quête de confort. Sa valeur dans le livre tient donc moins à une recette de développement personnel qu'à une critique de la poursuite mécanique de buts imposés. Il relie la perception à action, voire autrement, doit conduire à vivre avec davantage de cohérence. En dernier lieu, une œuvre fascinante mais contestée comme Ethnographie Yaqui, la question de l'authenticité est indispensable pour situer voir. Les premiers livres de Castaneda ont été reçus comme des travaux liés à anthropologie, et le récit attribue les enseignements à un sorcier Yaqui nommé Don Juan Matus. Cependant, de nombreuses critiques ont relevé des difficultés importantes, absence de vérification indépendante de certains épisodes, incertitudes biographiques et décalage entre le vocabulaire ou les pratiques rapportées et des études ethnographiques sur les Yaqui. Des observateurs ont aussi contesté la possibilité de traiter les livres comme des descriptions fidèles d'une tradition Yaqui identifiable. Il serait donc trompeur de les employer comme une source d'autorité sur les croyances autochtones du Mexique. Cette réserve ne rend pas nécessairement le livre sans intérêt, elle modifie son statut de lecture, voire peut être abordée comme un récit initiatique moderne, une fiction spirituelle possible ou une expérience narrative qui met en crise les certitudes occidentales de son narrateur. Cette position permet de préserver une lecture attentive tout en évitant de confondre pouvoir évocateur et preuve ethnographique. La controverse fait même partie de sa singularité, elle oblige le lecteur à évaluer la différence entre vérité vécue, construction littéraire et vérité historique. Les réactions opposées au livre viennent souvent de cette ambiguïté non résolue. En conclusion, voir intéressera surtout les lecteurs attirés par les récits initiatiques, les expériences de perception, la contre-culture spirituelle des années 1960 et 1970, ou les rapports tendus entre rationalité et expérience intérieure. Il peut aussi nourrir une réflexion utile sur les automatismes de l'attention, le besoin de tout expliquer et la manière dont les cadres culturels influencent ce que chacun tient pour réel. Son bénéfice intellectuel ne consiste pas à transmettre une ethnographie sûre ni une pratique à reproduire. Il tient plutôt à la lecture critique d'une voie narrative qui cherche, échoue, recommence et découvre les limites de son propre langage. Les lecteurs sensibles aux textes très structurés, aux démonstrations vérifiables ou aux informations fiables sur les peuples Yaqui devront conserver une distance importante, voire choisir des études anthropologiques complémentaires. Comparé à de nombreux ouvrages de spiritualité, le livre se distingue par la densité dramatique de son dialogue entre un apprenti sceptique et son mentor, ainsi que par une écriture qui fait de l'incertitude même une matière narrative. Comparé à une ethnographie classique, il se distingue au contraire par son caractère hautement problématique et contesté. Cette double position explique sa postérité, il ne se réduit ni à un manuel de chamanisme ni à un simple roman fantastique. Lu comme une œuvre ambiguë, datée et puissante dans son imaginaire, il offre une occasion de réfléchir aux récits par lesquels une culture définit la connaissance, la liberté et les frontières du possible. Si vous souhaitez soutenir Carlos Castaneda, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!